Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Vous écoutez Radion, il est 11h passé de quelques secondes. Un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec notre invité que je vous présente sans tarder, Lola Sémonin. Bonjour Lola.
Bonjour Yannick.
Alors Lola Sémonin, née à Morteau, dans le département du Doubs, c'est la Franche-Comté. Lola Sémonin, bien connue Lola, parce que tu as créé le personnage de théâtre au départ de la Madeleine Proust, grand succès public et critique qui t'a valu d'ailleurs 3 nominations aux Molière. Et puis depuis quelques années, tu as décidé de sortir la Madeleine des planches pour en faire un personnage de papier dont tu racontes la vie. Alors le 4e et dernier tome de la saga de la Madeleine Bobillé vient de sortir le 25 août dernier aux presses de la Cité, La Madeleine Proust, une vie, libération 1942-1945. On retrouve notre petite Madeleine qui est domestique dans une famille bourgeoise à Paris au moment de l'occupation.
Exactement, c'est vraiment... Il n'y a rien à dire, au revoir.
Alors nous sommes donc dans ce Paris de l'occupation. Madeleine est une jeune femme, elle a 17 ans et d'ailleurs elle présente Paris parce que Lola, tu fais toujours un grand travail documentaire très respectueux de l'histoire.
Oui, oui, ben, pour tous les tomes, hein, j'ai commencé. Cette saga, elle commence en 1925, donc là, c'est vraiment le milieu paysan.
C'est l'année de naissance de Madeleine.
Voilà, que j'ai imaginé, hein, puisque c'est un personnage fictif. Donc forcément, je me suis beaucoup renseignée sur le milieu paysan et énormément renseignée sur la guerre de 40 et sur la ville de Paris à cette époque pendant l'occupation.
Alors d'ailleurs, voici ce qu'écrit Madeleine à Simone dans une lettre. Voici comment Madeleine décrit le Paris de l'occupation. Le ciel gris, les vélotaxis, la fumée noire des gazogènes, les vitres bleues, les pancartes en allemand, les azous, les queues à toutes les heures de la journée, des queues pour trouver à manger, mais aussi des queues pour aller au cinéma ou au théâtre, le marché noir, les rafles, les sirènes, les alertes qui font courir les gens dans les couloirs du métro et dans les caves, des boches tout partout, des fois un coup de feu, pas de tour Eiffel en vue.
Ouais, parce que son but, depuis qu'elle est à Paris... Elle est arrivée à Paris donc en 41, c'est de voir la Tour Eiffel. Bon, là, évidemment, c'est toi qui l'as lu, mais on me dit que quand on me lit, on entend la Madeleine.
Alors, la Madeleine dans le précédent tome, les personnages qui avaient une importance dans le précédent tome, c'était les Villemay, ce couple bourgeois. Donc lui, Monsieur Villemay, homme plutôt sympathique d'ailleurs, fondé de pouvoir à la Banque de France, et son épouse qui reproche sans arrêt à la petite franc-comtoise son parler franc-comtois. On a l'impression que Madeleine, cette fois-ci, elle fait, si je puis me permettre l'expression, elle fait partie des meubles de l'appartement parisien des Villemay.
Oui,
elle
exactement.
S'est intégrée.
Alors, c'est plutôt Madame Villemay qui serait vraiment la haute bourgeoisie, quoi. Alors, elle, évidemment, elle est beaucoup plus maniérée. Elle reprend beaucoup plus Madeleine, alors que monsieur, celui qui est direct fondé de pouvoir la Banque de France, lui, il a de l'humour et il aime ses tournures de phrases, il aime ses maladresses, ça l'amuse.
Il y a dans l'univers de la vie de Madeleine à Paris une nouvelle jeune fille, une vraie Parisienne de Ménilmontant, qui apparaît dans ce roman et qui, à mon avis, offre à Madeleine une véritable évolution.
Voilà, parce que je voulais... Dans le tome 3, bon, elle a beaucoup le cafard, elle a l'ennui, c'est dur. Elle découvre cette ville, comme elle dit, c'est une forêt de pierre où tout est gris, tout l'hiver est horrible, il n'y a pas de neige, il n'y a pas les grandes pâtures, il n'y a pas le grand ciel comme dans son doux. Et je voulais justement qu'elle rencontre quelqu'un de très différent d'elle. Et souvent, quand il y a deux copines, il y en a souvent une qui est dévergondée, l'autre qui est plus timide. C'est souvent des couples comme ça, antinomiques d'amitié. Et donc, je me suis dit, ben, ça va être aussi une petite bonne, bien sûr, parce qu'elles vont se rencontrer dans la queue. Elle sera communiste, elle aura de la gouaille. Et comme je dis, elle va débroussailler la Madeleine.
Ah oui, alors ça, c'est formidable.
Ouais.
Madeleine dit, elle me débroussaille.
Voilà.
Il faut dire aussi que c'est l'opportunité pour toi de mettre face à face une Parisienne de Ménilmontant face à une petite jeune femme de Derrière-les-Gras, donc pas loin du Val-de-Morteau, pas loin non plus de la frontière suisse. Et Madeleine va raconter ce qu'elle accompagne à cette Parisienne qui n'est jamais allée en province, qui n'a jamais quitté Paris.
Oui, alors
c'est un face-à-face aussi,
aussi
géographique et de mode de vie.
Voilà, déjà ça. Mais aussi, ce qui est intéressant dans les littératures, c'est de mettre des contraintes et des contraires. C'est pourquoi chaque fois que Madeleine parle de son pays, qui est pour elle la plus belle chose au monde, l'autre, elle la casse systématiquement. Ça, Madeleine dit, oh là, en ce moment, c'est le printemps, tout est vert. Alors Margot dit, waouh, le vert, je déteste le vert. Et chaque fois, elle la fracasse comme ça. Ça, c'est intéressant aussi en tant qu'écrivain, de venir amener cette force des contraires qui oblige à faire toujours une opposition dans cette amitié.
Margot, la Parisienne, en tout cas, dans un premier temps, est étonnée par l'accent de,
ah oui, elle
de
dit,
la Madeleine.
C'est... Tu parles toujours comme ça, même quand tu parles normalement. Tu peux parler normalement.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Margot a peur de la campagne. Alors que finalement, je ne dis pas que la famille de Madeleine restée à Derrière-les-Gras vit mieux qu'à Paris, mais au moins à la campagne, il y a moins de contraintes, moins de restrictions. On souffre moins, notamment de la faim.
Ben, c'est-à-dire que les paysans ont des jardins, ils ont encore des bêtes, même s'il faut beaucoup donner aux réquisitions. Il faut donner des vaches, il faut donner parfois le cheval, il faut donner la moitié du foin. Mais ils sont des brouillards, ils savent ne rien perdre. Ils savent utiliser le moindre petit bout de terre, ils savent faire de la graine. À un moment, elle explique à Margot comment on fait de la graine, comment on ressème, qu'on n'a pas besoin d'acheter de la graine. Donc les paysans, ils savent faire tout ça. Évidemment, tout d'un coup, les citadins, ils sont complètement perdus. Elle ne sait même pas comment pousse une pomme de terre. Margot, elle ne connaît rien. Donc les paysans, ils savent survivre, en fait. Les citadins ne savent pas survivre. Et ça va être un enseignement des deux côtés, en fait, c'est un échange. Puisque la Madeleine va montrer à Margot comment, dans le houdou, on survit, même s'ils se font traiter les ploucs, c'est des voleurs. Et puis Margot va enseigner à Madeleine ce qu'elle connaît, c'est-à-dire la ville et le cinéma.
Et le cinéma, ça c'est aussi une grande découverte. Madeleine avait découvert le cinéma à l'école avec un instituteur donc
qui était communiste
et qui projetait donc des films sur un grand drap blanc tendu mais avec les scènes des baisers et les scènes sentimentales qui étaient censurées par monsieur le curé.
Oui, monsieur le curé coupait comme ça arrivait beaucoup et comme on le voit dans le film Cinéma Paradisio. On voit très bien ça. Et là elle l'emmène au cinéma et la Madeleine déjà, c'est des salles pharaoniques, magnifiques. Il y a des salles de 2000, 3000 places avec des vrais fauteuils. Donc, ce n'est pas du tout le cinéma de Paris ou chez la Blanche Fleurie qui met aussi un drap pour passer des films de Charlot où on est assis sur des chaises du café, quoi. Voilà, donc ça a été merveilleux aussi pour moi parce que mes parents étaient des cinéphiles. Et ils m'ont raconté aussi tellement ces films-là qu'elle, elle va voir pendant cette occupation. Quand tu disais qu'il y avait... Quand tu lisais le passage de la lettre de la Madeleine, il y a des queues immenses devant les cinémas. On croit que pendant l'occupation, les gens vont se planquer, vont rester chez eux. Ils sortent énormément. Ils vont au théâtre, ils vont au cinéma. Y a énormément de films, énormément de salles. Il y a toute une vie culturelle, particulièrement à Paris, quoi.
Alors, le cinéma, c'est aussi les actualités, mais on va peut-être...
Ah oui.
Les actualités, ça aussi, c'est important.
T'as raison, parce qu'on va aussi au cinéma pour voir les actualités.
Ah oui.
On imagine cette époque, il n'y a pas de télé, bon, il n'y a pas, évidemment pas de smartphone.
Il y a la radio.
Il y a la radio, mais la radio, si c'est Radio Paris, Radio Paris-Mans, Radio Paris-Mans...
Radio Paris est allemand.
Radio Paris est allemand. On va aussi au cinéma parce qu'on va avoir au moins un quart d'heure d'actualité, si ce n'est pas plus d'ailleurs. Et il y a même des cinémas qui ne donnent que des actualités. Et puis il y a une pause, ça j'en parle pas trop, mais il y a une pause où il y a souvent un artiste qui vient faire un numéro... Et dans ces actualités qui sont quand même dirigées, hein. Les actualités, c'est
contrôlées
pas les
par la propagande
qui les dirige,
oui,
mais
bien
on
sûr.
Voit quand même un peu le monde. On voit par exemple quand les bateaux, quand la flotte de Toulon
se saborde
dans la rade, on voit des images. Donc on voit aussi des choses extraordinaires qui sont réelles, qui ne sont pas cette fois-ci de la fiction. Hein. Donc c'est très très impressionnant. Et puis alors les Allemands font croire que les prisonniers sont dans des beaux villages bien propres, essaient d'attirer les Français avec le STO pour qu'ils aillent travailler en Allemagne. Évidemment, tous ces films-là, Margot sait que c'est de la propagande.
C'est une période tout de même extrêmement troublée, c'est évident, la période de l'occupation qui laisse encore des traces aujourd'hui. Chez les plus âgés.
Oui, je pense. Tout ce qui s'est passé avec le confinement a fait énormément d'écho. Hein. Entre les délations, entre l'obligation de montrer un pass, d'être puni si on n'avait pas de pass ou si on dépassait de 200 mètres une balade, toutes ces choses-là qu'on nous a fait subir pendant le confinement, tous les gens qui ont vécu l'occupation, moi je sais que pour mes parents, c'était horrible. Hein.
D'ailleurs, dans les remerciements, à la fin de ce tome 4, La Madeleine Proust, une vie, Libération 1942-1945, tu remercies ton papa. À mon papa, paix à son âme, qui s'est engagé en 1944 à moins de 20 ans et qui a gardé un traumatisme de cette guerre tout au long de sa vie. Tu remercies aussi ta maman. Tu écris à ma maman, paix à son âme, qui n'a cessé de répéter « On voit bien que vous n'avez pas connu la guerre ».
Oui, c'est vrai. Depuis toute petite, j'entends cette phrase. À peine on aurait gaspillé quelque chose, elle disait cette phrase. Ou si on avait trop de liberté, elle a énormément souffert aussi. Il faut penser que ces jeunes étaient en pleine adolescence. Mais exactement comme au confinement, regarde les dégâts que ça a fait. Ces adolescents qui ont dû s'enfermer dans des pièces sans voir personne, en se privant de toute vie sociale, ça a été très, très violent. Donc ces jeunes-là, pendant 4 ans, il n'y a pas de bal, il n'y a pas de fête, on n'a pas le droit de se réunir. Toute leur adolescence est gâchée.
On marque un premier intermède musical. C'est Lola Semonin qui nous accompagne aujourd'hui sur Radio dans Wagon Livre pour le tome 4 et dernier, La Madeleine Proust, une vie, Libération 1942-1945. Nous revenons d'ici quelques minutes avec notre invité.
Je sens des boums et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé. Tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté. De ma mémoire qu'à la bringue et ton amour m'ont épuisé. Je sens des baumes et des bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À s'aimer comme des dingues, comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter. Si comme un boomerang tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens des boum et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cingle que tu m'as fait endurer. Je sens des boum et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashback enchaîné. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues, d'accord que je t'avais donné.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Le tome 4, La Madeleine Proust, Une vie, Libération 1942-1945, est sorti le 25 août dernier aux presses de la Cité, sous la plume de Lola Sémonin, qui nous accompagne jusqu'à midi sur Radion. Lola, en début d'émission, nous avons parlé de Margot, donc cette jeune domestique très parigote du quartier de Ménilmontant qui rencontre Madeleine, qui effectivement consolide sa culture politique. Elle lui parle du procès de Léon Blum, l'homme du Front populaire accusé par le régime de Vichy d'avoir conduit la France à la défaite. Mais surtout, et je reviens sur un aspect qui domine beaucoup le roman et qui a parasité la vie d'un très grand nombre de Françaises et de Français, que ce soit à la ville ou à la campagne, c'est tout de même que beaucoup de jeunes gens n'ont pas mangé à leur faim. D'ailleurs, Margot dit « Moi, je pense qu'à une chose, bouffer, bouffer, bouffer. »
Oui, c'est vrai. En ville, vu qu'ils ne savent pas survivre, comment faire ?
Alors, parle-nous de l'élevage des lapins à Paris.
Oui, alors ce qu'il faut quand même comprendre, enfin que j'essaie de bien expliquer dans le livre, c'est que le gouvernement donne des tickets pour avoir du pain, pour avoir des chaussures, pour avoir des légumes, sauf que du beurre, par exemple, sauf que vous pouvez faire la queue devant la crèmerie, et quand c'est votre tour, il n'y a plus de beurre. Donc vous avez beau avoir des tickets, parfois, vous ne trouvez même pas la nourriture à laquelle vous auriez droit. Et comme la plupart des vivres partent en Allemagne, et en fait, je raconte aussi qu'ils partent aussi, les vivres partent aussi en Finlande, puisque la Finlande, en échange, donne de l'acier à l'Allemagne pour continuer de faire des chars et des armements. C'est très, très intéressant de se plonger dans une période comme ça de géopolitique, pour comprendre la géopolitique, pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce monde, qu'est-ce que c'est que ces guerres, qu'est-ce que ça rapporte, ces guerres.
Parce qu'on peut faire un parallèle avec notre époque actuelle, où on parle de pénurie, il manque des matériaux.
Voilà, là, on le voit bien avec ce qui se passe avec l'Ukraine, mais il faudrait aussi parler de tous ceux qui s'enrichissent pendant ces guerres et qui vont s'enrichir. Et c'est un peu ce qui s'est passé pendant la guerre de 40. Hein. Les industriels allemands s'en sont vraiment mis plein les poches sans rien partager avec personne. Alors, donc au bout d'un moment, tous les magazines, déjà les magazines féminins, les journaux, donnent des conseils pour inventer des ersatz, c'est-à-dire des repas, des recettes qui vont remplacer les ingrédients qu'on n'a pas. Par exemple, dans le pain, on peut mettre de la sueur de bois. Ça va épaissir un peu.
Du pois chiche, me semble-t-il.
Ou du pois chiche aussi. Au bout d'un moment, on va commencer enfin d'utiliser les plates-bandes de fleurs des grands parcs, comme le jardin du Luxembourg, pour planter. Parce qu'à un moment, on peut plus laisser cette population qui est vraiment dans les pauvres surtout, hein, dans une famine terrible. Et on conseille d'élever des lapins. Alors voilà, tous les Parisiens se mettent à avoir un lapin dans une cage sur le balcon ou dans la salle à manger. Mais bon, un lapin, il faut qu'il mange pour grossir. Hein. Et même à la campagne, si on donne plus de grains aux lapins, on a beau leur donner de l'herbe, ils vont grossir beaucoup plus lentement.
Et puis, il faut pouvoir et savoir le tuer.
Voilà, alors comme la Madeleine a déjà vu tuer des lapins, puisque c'est le lot de tous les gens de la campagne de savoir tuer les animaux qu'ils élèvent, parce qu'ils mangent des animaux heureux à cette époque. Ce n'est pas du gros abattage industriel. Hein. Donc, on va commencer d'appeler Madeleine pour tuer le lapin. Je ne sais plus comment il dit à un moment.
Elle devient tueuse de lapin pour les bourgeois.
Voilà, elle devient tueuse de lapin d'appartement en appartement, d'immeuble en immeuble, de rue en rue. On l'appelle pour tuer les lapins. Et souvent, elle demande la peau en échange pour évidemment la revendre à un marchand de peau de lapin.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans ton roman, Lola, c'est qu'il y a le parallèle... Parfois des retours dans ce Haut-Doubs horloger et forestier à Derrière-les-Gras, où effectivement, je ne dis pas que la vie est plus facile, mais elle semble peut-être un petit peu plus heureuse, un peu plus bénie que la ville des Parisiens ou des Lyonnais. J'ai été alors particulièrement surpris d'apprendre, et là je pense que c'est sourcé ce que tu avances, c'est qu'il y a des ouvriers de Sochaux, donc le pays de Montbéliard, qui, le week-end, durant leur presque unique jour de repos, viennent à vélo de Valentinier, de Sochaux, jusque dans le Haut-Doubs, jusqu'à Derrière-les-Gras. Donc, je rappelle, c'est un village fictif, pour venir acheter éventuellement un peu de beurre, un peu de lait, au mieux un poulet. Et c'est le troc aussi qui joue beaucoup à
voilà,
cette
parce
époque.
Que toute cette population des villes vont le week-end dans les fermes aux alentours pour essayer d'avoir des œufs, du lait, du beurre, puisque même avec le ticket, il peut ne plus y en avoir à la crèmerie. Sauf qu'il y a un moment, ils sont trop nombreux. Il y a un moment, il faut qu'ils s'éloignent de plus en plus pour être sûr d'avoir quelque chose. Et lui, je vois, il va peut-être pédaler pendant 4-5 heures. Et les ouvriers qui sont pauvres, qui sont vraiment payés à coups de lance-pierre, bah souvent ils volent un outil à l'usine. Et il dit, qu'est-ce que vous pourrez me donner contre un tournevis? Puis le père de Madeleine, il en a ras-le-bol parce que des tournevis, on a déjà dû lui en donner 5-6. Et là, il aimerait bien de l'argent sonnant et trébuchant. Mais bon, ils ont du cœur.
Oui, il y a une vraie générosité
de ces
paysans.
Plus que... Voilà, peut-être pas tout ça, mais en tous les cas, moi, j'avais envie que cette famille, vu qu'ils ne meurent pas de faim, soit un peu généreuse avec ceux qui viennent, qui demandaient un peu de nourriture. Hein. Ouais.
Mais on le sait, à Paris, pendant l'occupation, on mangeait des chats.
Ah ben les chats, oui, mais même à la campagne, je pense qu'ils ont mangé des chats. Il paraît que c'est très bon, très fin. Je vois pas pourquoi, quand on crève de faim, on mangerait pas un chat, quoi. Il y en a même qui ont mangé du rat, il y en a même qui ont mangé de l'herbe, et ça existe encore aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ça se trouve au Pakistan, s'ils trouvent un peu d'herbe, vu qu'ils sont complètement dans un état de catastrophe naturelle terrible. Donc, c'est la survie, c'est trouver des combines, c'est faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas imaginé faire.
Comme manger des corbeaux ou des bébés corbeaux.
Voilà, manger des corbeaux, manger tout ce qu'on trouve, hein, tous les oiseaux, hein, là, manger des écureuils. Alors la chasse est interdite. Hein.
Oui.
Alors ça, c'est un drame pour les gens de la campagne parce qu'on leur a pris leur fusil. Mais c'est un drame parce que le gibier pullule. Les sangliers viennent, ils viennent jusque dans les jardins, ils font du dégât. C'est pour ça qu'il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, racontée par Risset. Donc là, Risset, il a 20 ans à peu près dans ce dernier tome. Et ils vont décider d'aller tuer un sanglier à l'arme blanche.
C'est assez barbare. Hein.
Gourdin, fourche.
Oui.
Voilà, puisqu'on n'a pas le droit de tuer avec un fusil. Mais quand j'ai beaucoup interrogé les paysans pour créer la Madeleine Proust, il y en a quand même qui m'ont dit qu'ils avaient réussi à planquer un fusil. Par exemple, s'ils en avaient deux, ils en donnaient un seul en mairie en 40. Et il y en a un, il m'a dit, il le mettait dans sa botte. Donc il marchait comme s'il était blessé, comme s'il avait une jambe, pour aller dans un coin de la forêt tirer une bestiole.
Alors, tu as parlé du personnage de Risset. Donc lui, il est dans le village de Derrière-les-Gras,
ouais.
Il connaît la Madeleine. Risset, c'est un personnage que j'aime particulièrement. Il est débrouillard, il est filou, il est astucieux, c'est un réparateur hors pair. Alors, il trafique, enfin, il fabrique aussi de faux tickets de rationnement en sculptant des pommes de terre. Enfin, il change le poids de la nourriture sur les tickets de rationnement.
Ah oui, oh ben quand on est débrouillard, enfin, on utilise toutes sortes de combines. Mais surtout, Risset, vu que depuis tout petit, il fait de la bricote, c'est de la petite contrebande. Tout le monde fait de la contrebande, puisque avant la guerre de 40, la Suisse est pauvre. La Suisse s'est vraiment enrichie avec l'or allemand et les biens des Juifs, hein. Il connaît les chemins, il connaît les chemins pour aller en Suisse. Donc, forcément, quand une bonne sœur va avoir un juif à passer de l'autre côté de la Suisse, ou un parachutiste, ou Risset va le faire. Et il y a une scène que j'aime bien, parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde se faisait payer, comme on voit dans beaucoup de films, qu'il faut se ruiner pour pouvoir passer, ou la ligne de démarcation vers Chalon-sur-Saône. Il y en avait qui prenaient très, très cher. Et à un moment, le juif lui dit, c'est combien? Et Risset dit, c'est combien quoi? Oh, 1 heure? Non, c'est combien en argent? Comment ça en argent? Il dit, ben oui, on vous doit combien pour aller en Suisse, pour que vous nous emmeniez en Suisse? Et Risset dit, mais moi je suis un contrebandier, je suis pas un voleur.
Oui, tu en fais un personnage
J'aime bien cette réplique.
généreux et altruiste aussi,
Oui, puis c'est
qui
vrai.
prend des risques mais qui ne se fait pas
C'est
payer.
vrai qu'il y en avait beaucoup aussi qui étaient comme ça. Les paysans dans les fermes isolées, ils ont pratiquement tous caché des gens qu'il fallait cacher, ou ils ont tous aidé à passer. Parce qu'en même temps, il y a une telle colère envers ces Allemands qui occupent leur pays, qui les empêchent de vivre comme ils voudraient vivre. Donc, si on peut les berner, tant mieux. Et il n'y a pas, surtout chez Risset, il a 20 ans, il ne mesure pas que c'est peine de mort s'il se fait prendre. On ne mesure pas ça quand on a 20 ans. On ne mesure pas le risque que ça peut être.
Le risque, il n'y en a pas à se procurer le tome 4, La Madeleine Proust, une vie, Libération 1942-1945,
Oui, je peux quand même juste dire, je te coupe, excuse, mais que si on veut pas lire toute la saga depuis le tome 1, on peut aussi lire le 3 et le 4 ensemble, parce que là, elle est bonne à Paris, ou on peut tous les lire indépendamment, puisque je résume au début, je raconte un peu, je remets en place. Voilà.
Oui, il y a toujours un rappel des
Voilà.
personnages à Paris, à Derrière-les-Gras. Donc, on retrouve les filiations, les liens de parenté,
Voilà.
donc par rapport aux prénoms des personnages qui apparaissent, d'une
Oui,
part.
ce que
Et d'autre
j'essaie de
part, il y a
faire.
aussi un lexique de tout le vocabulaire bien spécifique,
Ah, bah
de
oui,
ce
parce
patois
que.
franc-comtois qui inonde le texte.
Voilà, c'est ça. J'aime colorer la langue avec ces mots qui sont si, si vivants, oui, bien sûr.
Et information importante, si vous souhaitez rencontrer Lola Semonin au cours de ses dédicaces ou d'interventions animées par des journalistes en librairie ou dans des salons, eh bien, si vous voulez suivre ses activités et la rencontrer, vous allez via Internet sur son site Internet www.madeleineproust.fr. Wagon Livre revient avec Lola Semona. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On se retrouve juste après la pause musicale que nous vous proposons.
Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil.
Ok.
Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes ton regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Tichel grand bourreau, faire la
claque partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Encore fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face, poursuite du bonheur. Reflet dans la glace, les années qui passent, flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers. Le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais. La vie c'est la guerre, tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tous, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Les yeux ouverts, ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants. Chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence. Se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes. Ne pas craquer, claquer, cramer, desserre ton col pour respirer.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Respire. T'as le souffle court,
respire,
quand rien n'est facile,
respire,
même si tu te perds,
respire,
et si tout empire, espère.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
La Madeleine Proust, une vie, Lola. Libération, cette fois-ci, 1942-1945. Notre Madeleine, alors, va revenir à Derrière les Gras. En 43, elle retrouve sa famille. Elle a eu quand même très peur. C'est un Paris, quand même, qui est sous le feu des bombardements qui effraient tout le monde. Et là, tu racontes des choses terribles, puisées également dans l'histoire, notamment le bombardement des usines Renault à Billancourt qui fabriquaient, des chars pour l'armée allemande.
Bien sûr, toutes les usines sont prises par les Allemands, bien sûr, et ce sont les Anglais qui viennent bombarder ces usines. De même que ce sont les Anglais qui vont bombarder toutes les villes du Havre, de Caen, toutes ces villes-là. Et pour certains Français, c'est incompréhensible que tous les gens autour d'eux soient tués par les Alliés. Mais alors, quand ils bombardent les usines de Boulogne-Billancourt, c'est un prétexte à une sortie. Alors on va voir les maisons effondrées. Donc Margot entraîne Madeleine chaque dimanche. Et là, oui, c'était assez émouvant de raconter cette scène de ces immeubles qui sont détruits par les Alliés.
Et d'ailleurs, aux actualités pâtées, il y a un homme qui raconte, qui a assisté au bombardement des usines Renault à Billancourt. Voici ce qu'il dit. « J'y étais, moi, cette nuit-là, à Billancourt. Il y avait une femme sous les décombres. On n'arrivait pas à la sortir de là. Son bras était coincé sous une poutre métallique qu'on ne pouvait pas déplacer. Ce qui restait de l'immeuble bougeait. On voyait bien qu'il allait s'écrouler. Le docteur a envoyé quelqu'un chercher une scie. Il a fait un garrot et il m'a demandé de le serrer et de lui tenir le bras pendant qu'il le sciait. Elle hurlait, la malheureuse, mais on a réussi à l'extirper et juste après, l'immeuble s'est écroulé. Il lui manquait un bras, mais elle était sauvée.
Bah, dis donc, c'est pas gai pour tes auditeurs.
Non, mais c'est aussi cette horreur de la guerre. Ça a été une réalité et Madeleine s'y confronte aussi. Sort vraiment de l'enfance, là.
C'est sûr que dans son village de Derrière les Gras, il n'y a pas de bombardement là-bas. Hein. Puis on est trop près de la Suisse. Alors c'est vrai qu'à Paris, Elle vit des moments comme ça et elle est rafle. C'est sûr que dans son village, il n'y aurait pas eu de rafles. Bon, il y avait d'autres problèmes. Mais les rafles, c'est terrible, les rafles. Tu te balades en ville et tout d'un coup, tu as un camion allemand qui s'arrête, qui chope 10 personnes qui sont là, qui les plaque contre le mur et puis qui les fusille parce qu'un officier allemand a été tué. C'est terrible. Il y a des destins qui se jouent à peu de choses.
Alors justement, tu parles des rafles, Madeleine est témoin d'une rafle, d'arrestation d'une famille juive carrément dans l'immeuble où elle est bonne chez les Vimet. Donc c'est la famille Rosenberg qui va être arrêtée. Mmh. Là aussi, tu reviens sur un épisode d'un antisémitisme.
Oui, ça c'est obligé de parler de la rafle du Veldiv. Hein. Ça m'a aussi intéressé de donner les deux sons de cloche. C'est-à-dire... tous les juifs qui ont été emmenés, la plupart du temps, ils étaient dénoncés. Hein. Mais ce qu'on ne nous dit pas assez dans les livres d'histoire, c'est que le gouvernement donnait des grosses primes. Donc vous crevez de faim, et tout d'un coup, là, on vous donne 100 000 euros si vous dénoncez un juif. Enfin, mettons 10 000 euros. Alors, du coup, comme quand on est écrivain, on se met un peu en empathie avec tous les personnages, pour bien les comprendre, je me suis mise aussi à comprendre qu'effectivement, t'as des gens, ils allaient peut-être sauver leur bébé en dénonçant des juifs parce qu'ils allaient avoir de l'argent pour acheter du lait au marché noir. Peut-être qu'il y a aussi des considérations de ce genre-là, quoi, avec cet argent. Donc la plupart des juifs ont été dénoncés, mais j'ai aimé, donc quand je dis donner deux sons de cloche, c'est-à-dire qu'il y avait des gendarmes, bon, qui étaient gendarmes tout à fait au service de Pétain et du gouvernement. Et puis il y avait ceux qui...
désobéissaient et prenaient des risques.
Voilà, il y avait ceux qui désobéissaient. Comme si on imagine dans une manif, au lieu d'obéir aux ordres et puis d'aller frapper des manifestants, ils posent leur matraque. Ou alors on imagine là, dans le roman, le gendarme, il sait qu'ils vont faire une rafle dans la nuit, à l'aube, dans cet immeuble, et il va prévenir la concierge la veille. Voilà, et ça, c'est des histoires que j'ai lues qui sont vraies. Hein.
Alors, il y a aussi des Français qui porteront, ce fut beaucoup le cas, je crois, aux Pays-Bas, des Français qui, par solidarité avec les Juifs, ont porté l'étoile jaune à un certain moment.
Ah ben, l'étoile jaune, il y a cette manif que je raconte, où la Madeleine se coud une étoile et elle écrit Franche-Comté dessus. Et chacun écrit quelque chose dans l'étoile. Et sa copine Margot lui dit, si tous les Parisiens mettent une étoile jaune, ils ne pourront pas arrêter tout le monde. Mais évidemment, la solidarité, si elle existait, ça se saurait. On n'en serait pas dans le monde dans lequel on vit. Et pourtant, c'est vrai que si ça marchait comme ça, ce serait extraordinaire. Et là, oui, il y a cette manif qui va être vite réprimée, hein, d'ailleurs, évidemment, avec des coups de matraque, des arrestations. Bon, ça, on sait faire en France. Hein. Donner des coups de matraque pendant les manifs, moi, j'en ai reçu moi-même. On sait très bien faire.
Mais ne va pas dans les manifs, Lola.
Ah, ben si, parce que moi, je soutiens ceux qui ont des revendications.
Bon, ça matraque un peu.
Et j'en suis fière.
Ça matraque dans tous les pays, de toute façon. Il n'y a pas qu'en France, quand même.
Je pense qu'il y a une autre manière de gérer des manifestants que de les matraquer.
En tout cas, tu racontes, et ça je pense que tu l'as relevé sans doute dans un quotidien de l'époque, c'est dans le pays de Montbéliard, ce curé lors de la messe de minuit, mmh, qui fera coudre des étoiles jaunes sur les aubes ou sur le petit Jésus de la crèche.
Je crois que c'est sur Jésus.
Oui, c'est très émouvant aussi, il y a une certaine audace aussi du clergé qui n'a pas forcément adhéré à cet antisémitisme.
Pas tout ça, mais il y a eu du bon et du mauvais dans tous les milieux. Et là, vous savez, là, on fait une crèche vivante à Noël et on amène un vrai bébé. Et le prêtre a cousu une étoile sur ce bébé qui représente Jésus. Mmh. Ah oui, c'est hyper émouvant. Hein.
Et tu rappelles, et ça c'est, on connaît ces photographies, elles existent, c'est au square, dans un square de l'avenue Henri Martin, à l'entrée du square, il y a une pancarte sur laquelle est écrit « Parc interdit aux chiens et aux juifs ».
Eh oui. Ah oui, mais vous savez, l'antisémitisme, déjà Pétain était très antisémite, Pétain avait peur de deux choses, des juifs et des bolcheviks. C'est pour ça que Pétain, lui, depuis le départ, ça l'arrange bien d'être associé à l'Allemagne. Et l'antisémitisme, c'est quelque chose qui se propage, qui se contamine. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont antisémites sans comprendre pourquoi, sans savoir pourquoi, seulement parce que pendant des années, on les matraque avec cette idée-là. Comme ça a été le cas aussi avec les homosexuels plus tard, jusqu'à ce qu'on enseigne, on éduque. Voilà, et là, il y a beaucoup de gens qui seraient certainement des belles personnes et qui ont été antisémites ou qui ont fait de la dénonciation en croyant vraiment faire le bien.
Disons que ce qui m'interpelle le plus, et c'est un jour à travers un roman de Colombe Schneck, elle expliquait que, par exemple, des préfets avaient signé des listes d'arrestations d'enfants juifs, sachant très bien ce qui attendait ces enfants qui allaient quitter la France pour des camps d'extermination, et qui étaient pourtant des papas affectueux avec leurs propres enfants. Et Colombe Schneck me disait comment cet homme, ce bon père de famille, aimant ses enfants, a pu envoyer à la mort des enfants juifs.
Alors, c'est un problème politique. Déjà, les gens de pouvoir, souvent, n'ont pas beaucoup d'empathie. C'est un problème politique, parce que les Allemands ne demandent pas d'arrêter les enfants.
C'est Pierre Laval qui ira au-delà des exigences allemandes.
Les Allemands demandent d'arrêter les Juifs, mais pas les enfants. Mais seulement, Laval et Pétain se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces enfants orphelins? On va les mettre où? Bon, il faut se mettre à leur place, quand même. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va les envoyer aussi dans les camps.
Tu fais vraiment un vrai travail de documentation. Tu cites une lettre d'un jeune homme qui a été fusillé au pied de la citadelle de Besançon.
Ah oui, ça c'est magnifique.
Hein. Et qui s'appelle Henri Fertet. Et ouais. Là aussi, il y a une volonté documentaire, bien sûr. Il y a des moments de sourire, il y a cette jeunesse pétillante, cette Margot qui débroussaille ta Madeleine, une Madeleine aussi qui grandit, parce que je crois que cette fois-ci, elle est vraiment sortie de l'enfance.
Ah oui, elle a mûri, hein, là. On sent qu'elle a mûri. Hein. Ouais, on me dit même qu'en la lisant, on sent qu'elle a grandi. Et en fait, j'essaie toujours, en tant qu'écrivain, d'aller chercher du rire, d'aller chercher de l'émotion, d'amener cette poésie... de trouver les mots qui vont balader le lecteur dans toutes ces sensations-là. Et voilà, on me dit qu'on rit et qu'on pleure, et ça me fait plaisir parce que moi, c'est ce que j'aimerais chaque fois que je lis un livre. C'est que j'ai envie de rire et envie de pleurer.
Et d'ailleurs, Madeleine, elle a encore quelques petits problèmes avec la langue. Tu utilises beaucoup les paronymes, donc des mots qui ont des proximités phonétiques.
Ah oui,
à
oui,
un
oui,
moment,
j'aime bien inventer des
Madeleine
mots, oui.
dit, mais c'est pas un chien, un foxtrot. Ou alors elle dit, c'est son bouc à misère.
Oui, oui, oui. Ben oui.
Alors on retrouve bien sûr tout le vocabulaire du patois franc-comtois.
Oui, enfin, c'est pas vraiment du patois, c'est des mots régionalistes. C'est un peu différent que le patois, tu vois. Les mots régionaux.
Oui. Et par exemple, on retrouve, alors, ça sent le rancni.
Oui, le rancni.
Une rechenée d'escalier, une frêlée de patates arrosée de cancoyote. Oui. Alors là, c'est pas franc-comtois. À un moment, Madeleine dit au Vimé, ben, je vais vous faire une soupe de chien.
Oui.
Qu'est-ce qu'une soupe de chien?
Je me rappelle plus, ça, avec de l'ail, non?
C'est une soupe à la va-vite, quoi. C'est quelque chose, une soupe.
J'ai quand même écrit il y a un an, hein, oui. Alors. Oui, c'est une soupe à la va-vite, mais c'est très bon. Et je crois qu'on frotte de l'ail, il y a de l'eau, il y a du pain trempé. Oui, ben, j'aime bien dérouter aussi, c'est bourgeois. La Madeleine les déroute beaucoup. Hein. Et en même temps, ça les interpelle parce qu'ils voient bien au fond qu'elle est débrouillarde et qu'elle a un savoir-faire que eux n'ont pas. Surtout dans ces périodes-là.
Il y a de très, très belles expressions concernant la météorologie. Demain, il fera les quatre soleils. Moi qui suis né à Morteau, je n'ai jamais entendu cette expression.
Oui,
il fera
les quatre soleils. C'est un paysan, un jour, qui m'a sorti ça. Et j'ai voulu aussi, par rapport au suspense, la rencontre avec l'Allemand.
Alors, il y a effectivement la rencontre avec Ludwig. qui ne laisse pas Madeleine insensible. À Paris, effectivement, elle est troublée par les beaux yeux bleus d'un soldat de la Wehrmacht qui se prénomme Ludwig et qui d'ailleurs partira sur le front russe pour une mort quasiment certaine.
Il est très jeune. Hein.
Il a 18 ans, dit-il.
Voilà, il est très jeune et c'est intéressant de chercher dans les sentiments quand on écrit comment tout d'un coup un personnage peut être attiré par quelqu'un qui d'emblée, disons, intellectuellement, ne serait jamais abordé. Quoi. Ça aussi, c'était assez intéressant à décrire. J'aime bien chercher comme ça les antinomies. J'aime bien sentir que le personnage, il va être déboussolé, il va être remué, il va être rebouillé, comme on dit dans le houdou.
Lola, on marque une dernière pause musicale et puis on se retrouve juste après. Lola Semonin qui nous accompagne dans Wagon Livre sur Radio dans cette fin de matinée pour le tome 4 donc de la vie de la Madeleine, hein, Libération 1942-1945, roman paru le 25 août dernier aux éditions des Presses de la Cité dans la collection Terre de France. Nous revenons d'ici quelques minutes.
Qui ne tourne pas rond chez moi, ne m'en demande pas trop. Tu sais bien que les fêlures sont profondes. Sans moi, ne t'accroche pas si fort. Si tu doutes, ne t'accroche pas si fort. Si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter. Alors que je suis sûre de moi, je te donne tout ce que j'ai. Alors essaie de voir en moi que je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux.
On m'avait dit attends, tu vas voir. L'amour, c'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Ça envoie des centaines de lucioles tout là-haut, au firmament. Ça s'allume d'un coup, et ça éclaire le monde et la vie différemment. Nous, on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts. On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus. On s'est aimé plus que tout, seul au monde dans notre bulle. Ces flammes nous ont rendus fous. On a oublié qu'au final, le feu, ça brûle.
Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Mais je t'aime. Je t'aime. Je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux.
Je m'approche tout près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser ces flammes jaunes et bleues et la passion qui se consume. Pourquoi lorsque l'amour est fort, il nous rend vulnérables et fragiles? Je pense à nous et je vacille. Pourquoi depuis rien n'est facile? Je t'aime en feu, je t'aime en or. Je t'aime soucieux, je t'aime trop fort. Je t'aime pour deux, je t'aime à tort. C'est périlleux, je t'aime encore. Alors c'est vrai, ça me perd fort. Je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment, ça me dévore. Je sais tellement que je t'aime mal.
Si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse dans tes bras. Tes attentes, j'en ai pas. Tu me donnes tant d'amour, tant de force, que je ne peux plus me passer de toi. Si mes mots te blessent, c'est pas ta faute. Mes blessures sont d'hier. Il y a des jours plus durs que d'autres. Si mes mots te pèsent, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Rien. Mais
je t'aime.
Je t'aime. Je t'aime.
Je t'aime.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
C'est Lola Semonin qui est aujourd'hui à bord de Wagon Livre. La Madeleine Proust, une vie, Libération 1942-1945. C'est le tome 4 et dernier de la saga de la Madeleine, personnage d'abord de théâtre, mais qui est maintenant un personnage de roman. Notre petite Madeleine retournera au milieu de l'occupation dans son village de Derrière-les-Gras, dans son haut doux forestier et horloger. Et là, Lola, tu racontes la libération de Morteau, de Pontarlier. On se retrouve à Mèche aussi, où a eu lieu d'ailleurs une réunion entre De Gaulle, Churchill et le maréchal de Lattre de Tassigny. Et j'aimerais que tu nous lises un passage que tu as choisi. Nous t'écoutons, Lola.
Voilà, parce qu'il faut imaginer ce que c'est la liesse après 4 ans d'enfermement, après 4 ans de restriction, de privation. On a encore foncé quand on a appris qu'un important convoi de soldats américains arrivait au Gras depuis Pontarlier en brandissant des fleurs aux couleurs de nos drapeaux qu'on cueillait vite fait le long des talus, scabieuses, hysopes, berces, pimprenelles, reines des prés, branches d'aubépines farcies de rubis et même des lys, des roses bien rouges et des dahlias qu'une fièvre folle nous poussait comme l'éclair à couper dans les jardins. De loin, on entendait la colonne de blindés qui n'en finissait pas. Des camions, des jeeps, des chars, de l'artillerie. Et on apercevait tous ces bras nus qui s'agitaient comme les herbes des champs sous la brise. Les cris de la foule galopaient tout du long de la route et montaient vers le ciel en gerbes de joie. Quand on s'approchait, entre les bouquets de fleurs et ces bras levés vers nos libérateurs, on voyait briller quelque chose. Quelque chose qui s'était éteint depuis 4 ans, qui venait de se rallumer et qui lançait des éclats. C'étaient les yeux des gens. Ces yeux, grands ouverts, pleins de vie, étincelaient comme des soleils.
Merci Lola Semonin pour la lecture d'un extrait de la Madeleine Proust, une vie, Libération 1942-1945. Et puis c'est aussi l'occasion pour toi de parler de la libération de Paris qu'on vit à travers notamment le témoignage de M. Villemier, la libération de Morteau, hein, la ville à Bougaud, Morteau libéré. Et d'ailleurs aussi à la fin, un hommage que tu rends aux femmes qui ont remplacer notamment les hommes prisonniers pendant la guerre. Et puis il y a cette conclusion de ton héroïne, on n'en revenait pas que c'était fini, vraiment fini. C'est vraiment fini maintenant la vie de la Madeleine. Tu pars sur autre chose.
Donc en fait, avant que Flammarion me demande d'écrire cette saga, j'avais déjà commencé une dizaine de romans. Qui n'ont rien à voir avec le houdou ou avec la Madeleine, sauf un, qui est le roman du spectacle Au débit. C'est-à-dire, c'est le spectacle où la Madeleine rencontrait le petit Camel. Voilà. Et là, j'en avais fait un scénario, et puis j'en ai fait un roman. Et je pense que c'est celui-là que je vais faire publier en priorité, parce que comme la Madeleine a 76 ans, ça se passe aujourd'hui, ça va venir boucler cette histoire de la Madeleine. Et on va comprendre dans ce roman que Risset s'est bien fait avoir, parce que lui, il aurait toujours pensé qu'il allait marier la Madeleine. Et il s'est fait griller, quoi.
La Madeleine Proust, Une vie, Libération, 1942-1945. C'est sorti le 25 août dernier aux éditions des Presses de la Cité et on le trouve dans toutes les librairies. Lola, le 13 octobre prochain, tu es à Mulhouse, à la librairie 47 Nord pour une rencontre dédicace. Et je rappelle que si vous voulez rencontrer Lola, avoir une belle dédicace, vous allez vous renseigner sur ces lieux où elle apparaît, où elle est sollicitée.
Sur le site madeleineproust.fr.
Voilà.
Il y a beaucoup de réseaux. Là, j'ai mis en place un gros travail de réseau. Puis alors, il y a une dédicace qui me touche particulièrement. C'est à Chalon-sur-Saône. C'est le 15 novembre. C'est dans l'hôpital. C'est dans le hall de l'hôpital. Donc, ça va être chouette parce que je vais rencontrer à la fois, je sais pas, des malades long séjour ou des soignants.
À l'hôpital, certes, mais la Madeleine Proust est en forme. C'était le titre d'un des spectacles il y a quelques années. La Madeleine Proust en forme.
Oui, c'était le premier spectacle, la Madeleine Proust en forme. Oui.
Lola, nous te remercions d'être venue devant le micro de Wagon Livre sur l'antenne de Radion. Bon retour dans le Haut-Doubs, dans ta belle grande ferme franc-comtoise.
Avec 4 TER.
Oui, c'est vrai.
Moi, je te remercie beaucoup parce que tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes qui lisent vraiment les livres. Et c'est vraiment ce que tu fais qui est un honneur pour un écrivain qui a passé tant de temps dans la solitude à écrire et qui est si bien lu.
Merci Lola pour ces paroles très, très appréciées. En tout cas maintenant, plaisir de lecture à vous, auditrices et lecteurs. La Madeleine Proust, Une vie, Libération, 1942-1945. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 8 octobre, toujours à 11h. Sur quelle radio, Lola ?
Radion.
Bravo. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Merci Lola Sémonin. Au revoir.
Merci, je vous embrasse. Thank you.